à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Artorama consacré cette année aux grands couturiers français. Pour ce second volet de notre série, nous nous intéresserons à Christian Dior, grand nom de la couture qui a bâti une des plus grandes marques de mode du monde. Comme nous l'avions fait avec Gabrielle Chanel, nous vous emmenons donc à sa découverte avec un 5x5 de mode, 5 grands thèmes avec à chaque fois 5 infos à retenir de cet homme prêt à suivre le rêve qui sommeillait au fond de son cœur. On démarre tout de suite avec 5 dates clés sur la vie de ce grand homme. Couturier des stars et homme d'affaires redoutable, Christian Dior a bâti un empire dans le monde du luxe. 21 janvier 1905, naissance du génie. Christian Dior voit le jour à Granville, en Normandie, en 1905. Il est le second fils d'une famille de 5 enfants. Ses parents sont les inventeurs de la fameuse lessive Saint-Marc. Il a 5 ans quand sa famille s'installe à Paris. Le jeune Christian Dior abandonne son rêve de devenir architecte et intègre Sciences Po à l'âge de 18 ans pour faire plaisir à ses parents. Il en sort quelques années plus tard sans le moindre diplôme. Année 30, un début difficile. En 1928, passionné par l'art contemporain, il ouvre sa galerie où sont exposées les œuvres de ses amis Picasso, Cocteau, Dali et Matisse, avec l'aide financière de son père. Le krach boursier de 1929 cause la ruine de celui-ci et le contraint à fermer la galerie. Les années 30 sont une période très difficile pour Christian Dior. Pour gagner sa vie, il vend des croquis de mode aux maisons de couture, comme Balenciaga ou Nina Ricci. Il dessine occasionnellement des illustrations de mode pour le quotidien Le Figaro. En 1938, le couturier Robert Piguet l'engage comme modéliste, mais la Seconde Guerre mondiale éclate. Il doit partir sur le front. Rapidement démobilisé, il est de retour à Paris en 1941. Il devient maraîcher avant de faire son entrée chez Lucien Lelong comme styliste. 1946-1947, la route du succès. Sa rencontre avec l'industriel français Marcel Boussac sera décisive pour son avenir professionnel. Le roi du coton finance le lancement de la maison de couture Christian Dior le 8 octobre 1946. Il achète également le siège, un petit hôtel particulier au 30 avenue Montaigne à Paris. L'année suivante, Christian Dior triomphe à l'âge de 42 ans. Le 12 février 1947, il présente sa première collection printemps-été, intitulée Corolle. Le créateur réussit à casser les codes de la haute couture de l'époque en inventant le new look. Le style va asseoir le prestige et la renommée de la maison Dior à travers les âges. La patte du créateur est caractérisée par une silhouette révolutionnaire, nette et galbée, gorge soulignée, taille creusée, hanche accentuée. Comme il l'a défini lui-même dans ses mémoires, le gris, le marine et le noir dominent les silhouettes, aux épaules rondes et aux jupes longues de la maison. La presse, en particulier Harper Bazaar, qui trouvera le nom pour ce nouveau style, salue une liberté de la femme et une élégance à la française retrouvée. 1948, un Français en Amérique. Christian Dior crée ensuite 22 collections de haute couture et ne cesse de se réinventer. Il vend ses licences et ses patrons à des ateliers dans le monde entier. Fort de son succès, en 1948, il s'envole pour les États-Unis. En se lançant à la conquête du marché américain, Christian Dior assure la diffusion de son nom. Il s'impose comme le couturier plébiscité par les plus grandes actrices de l'époque comme Marilyn Monroe ou Marlène Dietrich. En 1949, il présente sa première fragrance, Miss Dior, réalisée par le parfumeur Paul Vacher. Le flacon, une robe brodée de mille fleurs, est un hommage à sa sœur Catherine. 1957, une mort soudaine. En début d'année, le créateur lance Rouge Dior, le premier rouge à lèvres de la maison assorti à ses créations. Le 4 mars 1957, Christian Dior donne une interview pour le magazine américain The New York Times. Il est l'un des premiers couturiers à en faire la une. Christian Dior décède quelques mois plus tard en Italie, le 24 octobre, alors qu'il est en vacances d'une crise cardiaque. La mode parisienne se retrouve orpheline jusqu'à ce que Yves Saint-Laurent soit nommé directeur artistique de la maison et qu'il impose sa ligne dite trapèze. Maintenant, nous allons voir ce que Dior évoque pour vous grâce à un petit micro-trottoir concocté par nos soins. Vous avez accepté de répondre à 5 questions qui traduisent ce que ce couturier évoque pour les gens d'aujourd'hui, plus de 50 ans après sa disparition.
5 mots, que représente Dior pour vous ?
Pour moi, Dior représente en 5 mots, mode, style, le luxe, Paris et les sacs.
Pour vous, Dior, c'est plus une maison de couture ou une fabrique de parfums ?
Pour moi, Dior est plus une maison de couture, car quand on entend Dior, on pense la plupart du temps à leurs vêtements ou à leurs sacs.
Savez-vous d'où le nom Dior vient ?
Dior a été inspiré de son fondateur, Christian Dior.
Si on vous laissait le choix parmi toutes les créations de Dior, laquelle choisirez-vous ?
Personnellement, je choisirais le fameux sac Lady Dior.
Et connaissez-vous le successeur de Dior ?
Yves Saint Laurent est officiellement représenté comme le successeur de Dior.
Ouh là là, on a besoin de reposer les bases. Voici 5 looks qui vont créer l'identité de la maison Dior que vous devez retenir.
Le New Look. Créé en 1947, le New Look était une silhouette féminine qui redéfinissait la mode de l'époque. Il se caractérisait par une taille cintrée, une poitrine généreuse et une jupe volumineuse à la longueur du mollet. Le tailleur bar. Introduit en 1947, le tailleur bar est devenu un symbole emblématique de la maison Dior. Il se composait d'une veste ajustée et d'une jupe crayon, et était considéré comme une révolution dans la mode féminine de l'époque. Le parfum Miss Dior. Lancé en 1947, le parfum Miss Dior est devenu l'un des parfums emblématiques de la maison Dior. Il a été créé pour accompagner le New Look et incarner l'élégance et le raffinement de la marque. Le sac Lady Dior. Créé en 1995, le sac Lady Dior est devenu un accessoire emblématique de la maison Dior. Il a été nommé en l'honneur de Lady Diana, princesse de Galles, qui l'a porté régulièrement. Le sac se distingue par son design élégant, sa forme structurée et son petit fermoir en forme de dé. Les bijoux en perles. Christian Dior a popularisé l'utilisation de perles dans la haute couture et les bijoux. Il aimait l'élégance intemporelle des perles et les incorporait souvent dans ses créations. La maison Dior continue de créer des bijoux en perles qui sont devenus une signature de la marque.
Poursuivons avec 5 citations de Christian Dior qui nous permettent de nous rapprocher de la pensée du couturier.
Respectez la tradition et osez l'insolence, car l'un ne saurait aller sans l'autre. Chaque femme devrait avoir du rose dans sa garde-robe, c'est la couleur du bonheur. Le zeste est le secret de toute beauté, il n'y a aucune beauté qui n'est séduisante sans zeste. Quoi que vous fassiez, faites-le avec passion, vivez avec passion. Vous ne serez jamais assez soigneux quant au choix de vos chaussures. Beaucoup de femmes pensent qu'elles ne sont pas importantes, mais la vraie preuve qu'une femme est élégante est sur ses pieds.
Enfin, pour terminer, nous sommes ravis de recevoir à nouveau notre spécialiste mode, Madame Germani, qui va nous éclairer sur l'héritage de Dior dans la création artistique contemporaine. Madame Germani, c'est un plaisir de vous laisser le micro.
Bonjour, merci. Alors Dior et la création contemporaine et la création tout court, en fait, c'est une longue histoire d'amour qui date de sa petite enfance, parce qu'en fait, Dior, vous l'avez déjà évoqué, il est fils de riches industriels qui étaient même spécialisés dans l'engrais et la javel. Et à l'époque, il y a un slogan qui était celui de son père et non pas le sien, qui était « L'engrais Dior, c'est de l'or ». Donc on est passé à « L'engrais Dior, c'est de l'or » ou « Dior, j'adore ». Et en fait, il avait vraiment une famille donc, industrielle qui n'avait pas du tout pour idée de faire de leur fils un artiste. Et donc, il a commencé par faire autre chose. Et puis, petit à petit, il s'est quand même dirigé. Il a tenu une galerie d'art dès l'âge de 23 ans, où il a exposé des artistes surréalistes, Dali, Ernst, Man Ray, Harpe. Enfin, vraiment, notamment un catalogue qui avait été préfacé par André Breton. Et puis la galerie était quand même financée par son père, donc qui avait des finances qu'il pouvait assurer. Et après, il y a eu financièrement, ça n'allait plus trop, donc la galerie a fermé. Bref, il s'est petit à petit, comme il était très doué en dessin, il s'est dirigé vers la mode. Et c'est vraiment petit à petit qu'il a construit son désir d'avoir été peut-être à un moment. Il aurait aimé être architecte. Et en fait, on retrouve dans ses premiers dessins cette volonté peut-être de structurer. Et après-guerre, ce qui a aussi été intéressant dans la force de son travail de créateur, c'est cette envie. Donc après-guerre, c'est-à-dire une période où tout s'effondre un peu, de redonner du rêve. Et son truc, c'était un peu de rendre quelque chose de la femme séduisante et très féminine. Donc avec des modèles, ça aussi vous l'avez évoqué, le galbe, enfin des hanches très, très larges, une taille serrée. Et le fait qu'il ait quand même toujours conservé des amitiés avec des artistes de renom, notamment Cocteau, quand après son décès, la maison a été récupérée assez peu de temps par d'abord Yves Saint-Laurent, qui l'a repris, c'est le jeune Yves Saint-Laurent qui avait pris le relais, et puis John Galliano. Et pour rendre hommage à cet amour de l'art qu'il a toujours eu, Galliano avait fait une collection, c'était dans les années fin 90, où il avait fait trois robes Cocteau qui rendaient hommage à l'amitié de Christian Dior avec notamment Jean Cocteau. Et dans le cadre de ses créations, Christian Dior aussi a fait des modèles qui vraiment étaient très ancrés sur les arts plastiques, hein, enfin, avec les artistes qui étaient plus que des références, qui étaient des amitiés vraiment. Donc il a fait une collection autour de Matisse, par exemple. Donc ça aussi, c'est vraiment quelque chose de très fort. Après, au niveau de la marque aujourd'hui, on a ceux qui ont pris le relais. Il y a une volonté aussi d'ancrer, on l'avait vu avec Coco Chanel la dernière fois, d'ancrer les collections dans quelque chose de très contemporain, avec ça aussi, vous l'avez évoqué, le parfum, l'horlogerie, les bijoux. Notamment des interventions aussi d'actrices, hein, Nathalie Portman qui a fait la campagne pour le parfum Dior. Donc il y a une volonté aussi, il a été aussi très visionnaire pour très tôt diffuser sa marque aux États-Unis, en Angleterre. C'est aussi un super chef homme d'affaires, il y a une capacité à s'étendre, on va dire, à étendre son empire. Aujourd'hui c'est Bernard Arnault qui possède la marque. Mais c'est quelque chose qui, de fait, il y a une campagne de communication qui est absolument formidable, remarquable. Alors par contre, à contrario, le fait que ça se disperse, se diffuse autant, c'est au risque de la dispersion. C'est-à-dire qu'on a pu lui reprocher de lorgner, enfin plus lui, puisqu'il n'est plus, il est décédé depuis, mais de lorgner un peu trop du côté du marché asiatique et puis peut-être de partir sur trop de produits dérivés, hein, parce qu'il a vendu des franchises où on peut acheter des bas Dior qui ne sont plus de la haute couture, mais dont on a le sigle. Donc ça aussi, il y a peut-être eu une petite baisse de notoriété, mais ça reste quand même le haut du panier quant à l'idée d'une femme. Alors c'est marrant parce que c'est l'idée d'une femme vue par un homme quand même, hein, mais une femme toujours élégante, séduisante et en même temps qui s'assume pleinement dans ses formes et dans toute sa féminité. Et pour finir, c'est une chose que j'avais relevée, que j'avais bien aimée. Il a été notamment le couturier de stars comme Liz Taylor, Marilyn Monroe et surtout Marlène Dietrich, qui avait demandé, alors qu'elle devait faire un tournage avec Hitchcock, le Grand Alibi. Et elle avait dit « No Dior, no Hitchcock ». C'est-à-dire qu'elle avait dit « Si je ne suis pas habillée par Christian Dior, je ne fais pas le film ».
C'est déjà la fin de notre 5x5 de mode. J'espère que vous avez pris du plaisir à découvrir ce monument de la mode nationale qui pourtant aimait à dire « Il est bien difficile de se décrire soi-même ». Se connaît-on jamais ? On vous dit à très bientôt pour un dernier numéro consacré au troisième grand monstre de la mode française du XXe siècle, Yves Saint-Laurent. Vive la mode !